Je m'appelle Marie. Depuis 5 ans, mon Fred, mon amour me détruit. Petit à petit, morceau par morceau. Ça y est, il a réussi. Je ne suis plus personne. Personne.
La violence au sein du couple est un sujet médiatisé et connu. Ce qui l'est moins en revanche, c'est que cela existe aussi chez les jeunes. Pour en savoir plus, nous nous rendons boulevard Léopold II, au siège de la direction de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Violence, voilà un mot bien extrême pour les ados. Deborah Kupperberg, attachée à la direction de l'égalité des chances.
La première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes ont l'impression que la violence ne les concerne pas. Ils ont l'impression que c'est quelque chose d'extrême. Donc quand on parle de violence dans le couple, ils voient tout de suite la violence physique. Et ils ont l'impression que ça concerne que les adultes. Donc ils ont l'image un peu prototype de la femme avec l'œil au beurre noir. Et les faits, c'est qu'ils se sentent difficilement victimes, difficilement auteurs. Et que même quand ça arrive à des amis, ils n'identifient pas comme étant de la violence. Ils mettent un mot comme jalousie, excessif, possessif. Mais le mot violence est difficile pour eux d'identifier dans ce cadre-là.
D'autant plus que les jeunes recherchent en général des relations très fortes. Ils sont à une période de leur vie très idéaliste. Myriam Devinck, co-responsable du Centre de prévention des violences conjugales et familiales.
Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours des relations très très fortes, hein, des amours très, très extrêmes, très, très hauts, comme ça, avec un idéalisme extraordinaire, mais qui fait que les personnes ne voient absolument pas dans quoi elles sont.
La violence est ici comprise au sens large du terme, incluant la violence verbale et psychologique. Alexandra Adriensen, directrice de la direction de l'égalité des chances.
Pour faire l'étude, on a catégorisé la violence sous différentes formes. Et donc on a repris toute une série d'actes. Donc vous avez tous les actes qui touchent à la domination, comme empêcher de rencontrer ou de parler avec des amis, empêcher de parler à d'autres garçons ou d'autres filles, imposer des façons de s'habiller, de se coiffer, exiger de savoir avec qui l'autre est, surveiller ses conversations téléphoniques et lire ses messages sur son GSM ou donner des ordres. Il y a tout ce qui touchait le déni de l'autre personne, comme ne pas tenir compte de ses opinions dans l'intimité ou devant autre personne, arrêter de lui parler, refuser de discuter. Tout ce qui touchait la manipulation, donc lié sur la culpabilisation, faire du chantage, faire une mauvaise réputation, ou alors dévaloriser l'autre, donc le critiquer, faire des remarques désagréables en public ou dans l'intimité. Donc ça, c'est vraiment la 4 catégories de comportements qu'on a repris pour faire cette étude-là avec les jeunes, puisqu'il fallait trouver des formes de violence qui parlaient aux jeunes et qui ne soient pas foutre un poing dans la tronche.
Cependant, ces chiffres doivent être relativisés.
C'est alarmant, mais à la fois il faut relativiser parce que les faits de violence qu'on a mesurés sont parfois très, très minimes. Donc on n'est pas ici dans la violence, dans uniquement la violence sexuelle grave ou de la violence physique grave. On est aussi dans la violence, le début de la violence psychologique et la violence verbale. Donc c'est un signal d'alerte en disant voilà, elle existe, elle peut être sur un mode mineur ou sur un mode majeur, c'est-à-dire plus ou moins fréquente et plus ou moins forte. Et donc il faut travailler aussi avec les jeunes, quoi.
Après cet entretien, nous contactons les organisations proches des jeunes, à savoir les centres PMS. Pour la plupart, ils nous répondent n'avoir jamais été confrontés à de jeunes victimes ou auteurs de violences, comme nous l'explique un employé d'un centre PMS qui a souhaité garder l'anonymat.
On est à 4 à s'occuper de l'école, on fait des permanences régulièrement. Mais depuis 2 ans, on n'a jamais eu affaire à ce genre de demande, donc jamais de plainte de violence, que ce soit violence psychologique, physique ou quoi que ce soit.
Nous tenterons notre chance auprès des plannings familiaux. Même réponse. Étrange. Qui alors va bien pouvoir nous parler de ce problème? Qui est compétent? À qui donc s'adressent les victimes de violence? Micro au point, nous décidons donc de nous rendre au cœur du problème, à savoir dans une école secondaire. Direction l'IPES Léon Huret à La Louvière. Justement, aujourd'hui, la SBL Solidarité Femmes et Refuge pour Femmes Battues organise une animation dans une classe de 5e. Cette animation a pour but de sensibiliser les jeunes à la violence au sein du couple. Au programme, échange de points de vue, sketch et jeux de rôle.
Parce que lui, le garçon, il est inquiet. Donc, putain, t'as vu comment t'es habillée, tu vas pas sortir comme ça, c'est vraiment trop cool.
Quoi? Mais t'aimes pas? Et puis, ça va, quoi?
Non, c'est trop provoquant, on sort pas comme ça. Hein. Bah, maintenant, allez, tu vas te changer.
Mais je vais pas te changer, enfin.
Si, maintenant, tu vas te changer, c'est pas, c'est fini.
Mais pourquoi?
Parce que c'est trop cool, c'est trop provoquant, on sort pas comme ça, moi je sors pas avec une prostituée.
Alors nous, on évalue pas, on ne sait pas identifier véritablement si ça apporte des changements de comportement. Et ce n'est pas ça l'objectif non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement, à un moment donné, susciter de la réflexion, discuter autour de cette question-là, de manière ludique, par des sketchs, etc., pour que, même s'ils ne changent pas vraiment de comportement, parce qu'encore une fois, ça, on ne sait pas l'évaluer, ben, déjà qu'ils échangent, et c'est ça, nous on vise ça, c'est un petit objectif, mais on pense qu'on apporte quand même une petite goutte d'eau dans la mer. Quoi.
L'animation finie, Fiona et Jonas, deux élèves de cette classe, nous donnent leur impression.
Je ne pensais pas que ça pouvait aller loin, de la façon qu'on s'habille, je ne pensais pas qu'on pouvait aller si loin que ça. Sinon, question des relations, tu sais, je sais bien qu'il y a toujours de la jalousie, que ça peut arriver en main, aux mains... À la rupture du couple, bien sûr.
Bah, j'ai retenu que il faut pas forcément grand-chose pour blesser l'autre personne. Et voilà, il faut pas grand-chose, il faut pas vraiment de la violence ou des insultes, même de bêtes mots sans forcément être impoli, ça peut déjà choquer l'autre personne.
Nous remarquons que les adolescents n'ont pas conscience de la violence à laquelle ils sont confrontés quotidiennement. Pour eux, certaines pratiques sont anodines. Isabelle Somzé, psychologue et employée au planning familial.
La plupart n'ont pas conscience que c'est de la violence. La violence psychologique, le contrôle social, le contrôle par l'ordinateur, par tel ami ou tel ami, je ne l'aime pas, donc tu vas simplement arrêter de le voir s'il te plaît. Ils ne se rendent pas compte que c'est une forme de violence.
L'animation finie, nous rejoignons une victime de violence. Face à nous se présente une jeune fille d'à peine 20 ans. Au début de notre entretien, la voix est assurée, mais au fur et à mesure de la conversation, l'émotion prend le dessus. Mauvaise expérience oblige.
Bah avant, il était adorable, comme ils sont tous, ils sont tous au début, c'est les premiers moments, on est fou, on a toujours envie de se voir, on s'envoie plein de messages et... Puis ça a commencé à dégénérer, où on allait en soirée ensemble, et puis quand j'allais de mon côté, ça ne lui plaisait pas. Alors, on se disputait, puis quand j'allais voir une copine, ça ne plaisait pas, parce que alors, ça veut dire qu'on ne se voyait pas 2 heures, ou un truc comme ça. Donc, mais au début, c'était hyper bien, on faisait vraiment ce qu'on voulait de chacun de notre côté, donc on ne rendait pas vraiment de compte l'un à l'autre. Puis ça a commencé à vraiment devenir sérieux, et à vraiment prendre le contrôle sur tout ce que je faisais, que ce soit même d'aller en cours, je ne pouvais pas faire le chemin ici toute seule, quoi. Quand on se disputait, au début, il se donnait des coups dans le mur. Puis ça a dégénéré à une soirée. Quand je lui ai dit que je le quittais, il m'a poussé, il m'a donné un coup de poing dans le visage. Et depuis, ça a dégénéré de plus en plus. À chaque dispute, c'était sur ma gueule, quoi. Donc voilà.
Cette expérience marque au fer rouge les victimes, et ce, surtout dans leurs relations futures.
J'ai plus confiance. Toujours peur. Quand, par exemple, je suis en couple, j'ai toujours peur quand je me dispute, ça va... Je vais retomber dedans, quoi. Puis de nouveau, le gars va péter un plomb et me frapper. Et j'ai déjà eu l'expérience plusieurs fois où je suis ressortie avec un garçon qui est aussi agressif, quoi. Donc...
Propos confirmé par Melissa Valente, une victime qui organise maintenant des animations dans les écoles pour sensibiliser les jeunes.
J'ai vraiment du mal. J'essaye, mais je vois quand ça commence à devenir sérieux, je mets une limite à la relation. J'arrête. Ça me fait peur. J'arrive pas à m'investir de nouveau. J'ai trop peur de souffrir.
Suite à plusieurs entretiens, nous concluons que les victimes ne se confient pas ou peu. Explication d'Isabelle Somzé.
Un ami, une sœur, un frère, a beau se montrer sensible, ouvert, présent, disponible, c'est pas pour ça que la personne va se confier. Si la personne ne se confie pas, c'est parce qu'elle protège l'être aimé. Puisqu'on l'a dit, la personne qui... inflige cette souffrance à son ou sa partenaire, c'est une personne qui est aimée par sa victime.
Face à cette situation, les parents ne savent pas toujours comment réagir. Myriam Devinck.
Comment aussi les parents réagissent quand ils voient une relation qui ne convient pas à leur enfant?
Et ça crée presque toujours des conflits parce que c'est très difficile pour un jeune d'admettre ou d'accepter que son choix n'a pas été bon. Et c'est très, très difficile pour les parents de savoir quoi faire et quoi dire entre interdire et accepter, entre protéger et fermer les yeux. C'est pas simple du tout.
Comment réagissent les jeunes lorsqu'ils sont confrontés à une situation de violence ?
Alors, il y a 50% des jeunes qui pensent qu'ils vont mettre fin à la relation s'ils sont en situation de violence. Finalement, il n'y a que 20% qui le font réellement. 10% pensent qu'ils vont fuir, seuls 3% fuient. Alors, en parler aux amis, 19% pensent qu'ils vont le faire. Et en fait, c'est beaucoup plus. C'est 28%, donc presque un tiers. En parler aux parents, 36% pensent qu'ils vont le faire. Il n'y a que la moitié qui le concrétise. En parler au PMS, presque pas, 1%. Et persuadés qu'ils ne feront rien, aucun ne sont persuadés qu'ils feront rien. Ils sont sûrs qu'ils vont réagir. Et finalement, il y a quand même 13% qui n'ont pas réagi.
La violence chez les jeunes est un tabou. Elle est rarement abordée, même avec leurs proches. Ils ne l'aperçoivent pas comme telle. Pour eux, la violence amoureuse est uniquement synonyme de violence physique. La jalousie et la possessivité sont considérées comme des preuves d'amour. Le contrôle, quant à lui, n'est pas identifié comme de la violence. Bien qu'on ne puisse pas en mesurer l'impact, les actions de sensibilisation auprès des jeunes se multiplient. Des actions malheureusement toujours nécessaires pour permettre à nos jeunes de s'épanouir pleinement dans leurs relations amoureuses.